tous les mois sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.
Bonjour à vous qui aimez glaner ici et là des idées de lecture. Ici, c'est Des coups au cœur de Littéra 05. Et l'idée de lecture aujourd'hui, c'est un roman de Lola Lafont, Chaviré, qui a été publié en 2020 chez Actes Sud. C'est l'histoire de Cléo, 13 ans et quelques mois, qui vit à Fontenay-sous-Bois, en banlieue. Elle a une adolescence un peu grise dans la France des années 80. Et elle est assez quelconque, Cléo, si ce n'est qu'elle a une passion, la danse. Non, pas la danse classique, mais le moderne jazz. Elle appartient à un milieu modeste. Je vous lis un premier texte où l'on voit comment Cléo découvre ce qui sera sa passion. Danser, c'était apprendre à dissocier pieds poignards et poignets rubans, puissance et longueur. Sourire en dépit d'une douleur persistante. Sourire en dépit de la nausée, un effet secondaire des anti-inflammatoires. À 12 ans, 5 mois et une semaine, les parents de Cléo lui avaient proposé de prendre des cours de danse, préoccupés de la voir traîner devant la télé le mercredi et le samedi après-midi. Le cours privé de Madame Nicole regorgeait d'élèves du collège privé de la Providence, c'est Domitille, Eugène, Eugénie, Béatrice. Dans les vestiaires, Cléo les entendait évoquer un week-end en Normandie, des vacances aux Baléares, un séjour linguistique aux États-Unis, la voiture de maman, celle de papa, la femme de ménage, la nounou, l'abonnement à la comédie française et au théâtre des Champs-Élysées. Cléo taisait prudemment son adresse, le Fontenay des grands ensembles, la Ford escorte de ses parents, tout comme le métier de sa mère, vendeuse, dans une boutique de vêtements pour femmes fortes. Les mères des Domitiles assistaient régulièrement aux cours, assises sur les chaises en bois disposées au fond de la salle. Elles croisaient les chevilles, mais pas les genoux. Toutes se pressaient autour de Madame Nicole, la flattaient, exigeant plus de sévérité pour leur fille. Leur désir féroce de les conduire aux portes d'un avenir dont elles-mêmes avaient été évincées était palpable. Ce désir de posséder des filles limpides, immatérielles, sylphides au corps vidé de leur mauvais sang. Toute l'année, Cléo s'était appliquée à parler le langage de la danse classique, comme on s'essaye à prendre l'accent d'une langue étrangère sans jamais l'avoir en bouche. Elle avait tenté d'acquérir la préciosité et le regard altier de celles que Madame Nicole leur citait en exemple pour leur classe, princesse, duchesse, sans succès. À la fin de l'année, Madame Nicole lui avait suggéré de faire autre chose, de la gymnastique peut-être. Cléo ne manquait pas d'énergie, de grâce, en revanche. Cléo s'en était retournée à la morosité des samedis devant la télé. C'est là qu'elle les avait vus pour la première fois. Étincelants, ces danseurs ondulaient comme des rivières rapides. Ils annonçaient le générique de l'émission favorite de sa mère, Champs-Élysées. Avant que Michel Drucker ne les congédie, on applaudit bien fort les danseurs qui vont quitter le plateau. Cléo s'approchait du petit écran afin de déchiffrer leurs pirouettes, ces refrains de joie qu'ils concluaient d'un bond très loin de l'affectation des Domitiles chez Madame Nicole. Voilà ce qu'elle voulait faire.
Thank you.
Elle aime la danse, Cléo, et c'est comme ça qu'elle va être repérée à la sortie de son cours à la MJC par une certaine Cathy qui dit travailler pour la Fondation Galatée, une fondation qui octroie des bourses pour jeunes filles talentueuses ayant un projet artistique. Cathy est sympa. Avec elle, on va dans des boutiques et des endroits chics. Elle fait des cadeaux. Cathy est un modèle. Elle est très belle, élégante, très à l'aise. On a envie d'être choisie, d'être aimée par elle, d'être à la hauteur. Cathy est habile. Elle parle en effet un langage qui plaît aux adolescents, pas comme les parents. Et Cathy, elle est surtout une tentatrice, une espèce de sirène qui attire dans un piège. Et alors, comme d'autres avant elle et d'autres après elle, Cléo va chavirer. Elle va succomber comme un sortilège. Chavirer, c'est une histoire d'emprise et de prédation. Il va y avoir des déjeuners avec des jurés, des messieurs, devant lesquels il faudra être à la hauteur, montrer que l'on a une certaine maturité pour que le projet soit validé, que le dossier soit sélectionné. Histoire d'abus sexuels sur mineurs. Mais il n'y a pas de scène trash dans le récit, et la narration sait se faire heureusement elliptique. Je vous lis un deuxième extrait. C'est la première fois que Cléo se retrouve dans un appartement du 16e arrondissement. L'homme qui leur ouvrit la porte de l'appartement semblait plus âgé que son père. Marc s'adressait à elle avec le ton soucieux d'un proviseur. Beaucoup de jeunes filles s'emballaient dès lors qu'elles passaient la première sélection. Mais si Cathy repérait les potentiels, lui était chargé de s'assurer que les projets étaient dotés d'un petit quelque chose en plus. Que pensait-elle avoir de particulier? Ses sauts, ses fan kicks, et elle n'était jamais fatiguée. Les 6 heures de danse par jour du stage new-yorkais ne lui faisaient pas peur. Son dossier était prometteur. Mais il manquait un peu de peps, c'était un peu scolaire. Cathy, penchée vers elle, douce. Tu comprends, scolaire, c'est sage. Un peu trop sage, renchérit Marc. Le cœur de Cléo à la place de son estomac dilaté jusqu'à la gorge, le cœur large comme une flaque noirâtre à ravaler. Terminé les mines complices, les attentions et Paris. On était là pour ça, rassurait Cathy. On formait une équipe. On trouverait ensemble ce petit quelque chose qui la distinguerait des autres. Cléo rageait de s'entendre chevrotter d'une voix de bébé sur ce ton de vaincu qu'elle n'avait rien de spécial, rien de rien. Sa mère l'avait même confondue avec un autre nourrisson à la maternité. Heureusement qu'elle avait ce truc, une tache de naissance, dit-elle, indiquant sa cuisse au travers du pantalon. Amusant, ça. Bon, Cléo était-elle cap ou pas cap? En entendant cette expression démodée, Cléo avait failli éclater de rire, mais elle s'était contentée de déboutonner son pantalon, montrant du doigt la marque brune à la lisière de sa culotte. Cathy lui avait fait signe de se rhabiller, l'avait remerciée. Il était temps de repartir. Dans la voiture, elle lui avait tendu un billet de 100 francs et un cube enrubanné. Il lui porterait chance quand elle ferait face au juré, bientôt. Opium d'Yves Saint-Laurent, son parfum. Elle partagerait la même odeur. Clin d'œil. Quelle chose valait 100 francs? Avoir eu l'idée de parler de sa tache de naissance? Avoir baissé son pantalon? Elle n'avait même pas dansé. Oser, avait répondu Cathy, ne pas s'être laissée démonter. Savoir improviser était essentiel pour une danseuse. Les jurés s'emploieraient à la déstabiliser, à charge pour les candidates motivées de garder le cap, comme sur scène. Dans le cas de Cléo, ce qu'il y aura de plus grave et de plus douloureux, c'est que son rôle sera finalement d'approcher d'autres jeunes filles, de les accrocher et de les mettre en relation avec Cathy et ces messieurs des déjeuners dans le 16e arrondissement. Cléo, elle va être complice, forcément complice. Voilà, ce sont ces faits qui nous sont racontés dans un premier moment du roman. Et puis, ce sont différents personnages qui, au cours de chapitres assez brefs, vont révéler leur vision de Cléo telle qu'ils l'ont connue à telle ou telle période de sa vie. En effet, l'histoire se développe sur 35 ans, de 1984, époque de l'année de la Fondation Galatée, jusqu'en 2019, année où l'on retrouve une Cléo de 48 ans, presque retraitée après une carrière de danseuse variété paillette sur les plateaux de télévision. Dans le roman, ces personnages sont assez nombreux et parfois le lecteur peut avoir l'impression de se perdre. Cependant, malgré cette construction narrative éclatée, on arrive à recoller les fragments du puzzle et l'itinéraire de Cléo est, à la fin, très clair pour notre esprit de lecteur. Alors, qui sont-ils ces personnages dont la vie a croisé celle de Cléo? Il y a Jonas, qui fut son amoureux du lycée alors qu'ils avaient 16 ans et que bien des choses les séparaient, l'origine sociale et familiale par exemple, les goûts aussi, ceux de Cléo moins intellectuels, plus populaires que ceux de Jonas. Il y aura aussi, un petit peu plus tard, alors que Cléo a peut-être une trentaine d'années, une rencontre d'un soir avec un certain Alan, qui est un régisseur du spectacle du concert de Jeff Buckley. Et à cette occasion, on voit une Cléo entreprenante, que rien n'effraie, mais aussi un peu désabusée, semble-t-il. Un peu plus tard, c'est Lara, la colocataire de Cléo, son amie de cœur aussi, qui est séduite devant une Cléo aux facettes multiples. Elle est dure et fragile, elle est discrète, à la personnalité affirmée. C'est une danseuse, Cléo, hein, c'est une danseuse au corps athlétique et au visage d'enfant parfois. On verra aussi Claude, l'habilleuse qui a bien connu Cléo lorsque celle-ci travaillait comme danseuse de revue dans un cabaret. Avec chacun de ces personnages, Cléo, elle est sur le point d'avouer le secret qu'elle trimballe depuis sa jeune adolescence. Et puis non, finalement, elle reste sur ses gardes. Les reflets de Cléo qui nous sont livrés à travers les yeux de ceux qu'elle a croisés, à travers tous ces personnages donc, nous révèle une Cléo très dure avec elle-même. On trouve dans le texte ces mots, j'ouvre les guillemets, la férocité avec laquelle elle parlait d'elle-même. Ce qui se dégage du personnage, c'est son désir d'être indépendante, son opiniâtreté dans la poursuite de la réussite et aussi son endurance dans la pratique de la danse. sent bien pourtant qu'elle a ce côté bancal, Cléo. On sait sa blessure et on comprend que elle ne veut pas la voir. Sans cesse, elle la met de côté. Mais derrière cette volonté de l'oubli, il y a, revenant de façon lancinante dans le récit, le sentiment de sa culpabilité. Cléo, elle ne peut pas se considérer pleinement comme une victime, car elle se sent responsable. Et c'est difficile d'être à la fois victime et coupable. Elle a une conscience douloureuse de son passé irréversible et elle se croit impardonnable. Alors, tout cela n'est pas clair dès le début. Et c'est le temps qui, au fur et à mesure que Cléo grandit, c'est le temps qui doit faire son travail. Et le roman Chaviré rend compte de ce travail du temps. Cléo, elle pense souvent à Betty. Et je dois maintenant vous parler de Betty. C'est une gamine de l'époque du collège, une gamine très vive, plutôt effrontée. Elle est très douée pour la danse classique. Elle a déjà des médailles et elle veut réussir à tout prix. Mais voilà, les cours particuliers, cela coûte cher. Alors, absolument, Betty veut être sélectionnée par la Fondation Galatée. Elle a 12 ans, Betty. N'est-elle pas un peu trop jeune ? C'est ce que se dit Cléo quand même. Oui, c'est un début de prise de conscience de sa part, de la part de Cléo, mais chez elle, le problème est évident, c'est un déficit de mots. D'ailleurs, dans sa famille, on ne parle pas beaucoup. Je vous lis un troisième extrait où il est question de la jeune Betty. Le mercredi 16 mai 1984 à 17h, Cléo marchait en direction de la place de la mairie aux côtés d'une Anaïs ou d'une Stéphanie quand une voix, au loin, l'avait arrêtée. « Cléo, hé, attends-moi, attends !» Tous ces gestes qu'elle aurait pu faire, repousser Betty d'une table dans le dos, lui faire rebrousser chemin, attraper Betty par le col de son blouson et lui enjoindre d'arrêter son cirque. Sa main aurait pu attraper celle de Betty, comme on saisit un enfant sur le point de traverser une rue encombrée. Sa main aurait dû se poser sur l'épaule de la petite, la forçant à rester à ses côtés. Une main qui aurait tenu bon, stoppé, prévenu, empêché, retenu, protégé. Une main ou des mots. « Va-toi, Betty. Va-t'en, Betty. Ta gueule, Betty. » Mais aucun mot n'était sorti de sa bouche. Aucun geste n'avait été esquissé. Cléo était restée spectatrice. Elle avait laissé les choses se faire. Cathy refermait la porte de la voiture. Cheveux de rouille, rire déteint. Sans se soucier de Stéphanie ou d'Anaïs, la petite s'était plantée devant Cathy, avait déroulé la chronologie de ses médailles, telle une ancienne combattante face à un président de la République. Cathy, enchantée, amusée, divertie, même pas 13 ans, mou dubitative. Elle pourrait en parler à la Fondation. Certaines dérogations étaient parfois accordées. Le soir même, Cléo s'était vue récompensée au téléphone d'un « sacré trouvaille, ta Betty ». Cléo balbutiait qu'elle n'y était pour rien, elle n'avait pas présenté Betty à Cathy. Cléo n'avait rien fait, rien justement. Cléo, 13 ans, 7 mois, était envahie de ce monologue connu d'elle seule dès lors que les bruits du quotidien cessaient. Les volets fermés, ses parents couchés, le manège grinçant d'une ferraille de mots sans personne pour y mettre fin, personne pour reprendre le récit à zéro et examiner posément les faits, l'absoudre ou alors la condamner. Dans le roman, on suivra la trajectoire de Betty aussi, une vie pleine de promesses qui a basculé, des espoirs déçus, un don gâché puisque Betty abandonnera une carrière de danseuse à peine entreprise. Ce qui m'a plu dans le roman de Lola Lafont, c'est également l'évocation de la culture populaire des années 80, les variétés à la télévision, les troupes de danse sur les plateaux, les chanteurs comme Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman, etc., j'en passe. Nous avons là comme un plaidoyer pour cette culture populaire. Et je vous lis un dernier texte, un dernier extrait. Un samedi soir de décembre à 20h30, seule dans l'appartement, Lara s'empara de la télécommande. Ce geste d'enfance, les mercredis, Albator, les samedis soirs, Champs-Élysées. Le générique de l'émission s'annonçait dans un roulement de batterie, une colonne Maurice dévoilait un à un les visages des invités, tandis que surgissaient, sur l'esplanade du Trocadéro, les danseurs virevoltants que Lara servait tous les vendredis. Michel Drucker, nœud papillon noir et pochette rouge, annonça les merveilles à venir d'une voix douce et cassée. Il semblait à peine prévenu, stupéfait du programme. Une soirée exceptionnelle et tout de suite les ballets de Malco, formidable. Enfant de plateau, à gauche sur l'écran, Lara ne la reconnut pas tout de suite. Cléo, figée en un sourire immobile que démentait son thorax haletant. L'ovale du visage incliné de Cléo était celui d'une enfant dans un tableau du XVIIIe siècle. Un visage de gamine d'une douceur royale, travestie en adulte, déshabillée d'un soutien-gorge noir, brodé de paillettes et d'un mini-short en sky. Lara avait un jour demandé à Cléo comment juger du niveau d'une danseuse. La rapidité de ses gestes, sa souplesse, sa grâce. Devant l'écran, elle comprit que c'était autre chose. Cette capacité à ravir l'attention, toutes les attentions, par millions, dont celle de Lara. Cette capacité a donné envie d'être Cléo, agile, athlétique, précise et troublante. Le générique de fin défilait sur les cuisses gainées de lycra noir de Cléo. Elle enlaçait une danseuse d'un blond platine. Toutes deux arboraient le même sourire laqué vermillon, la même frange de fossiles. La caméra hésita un instant entre elles deux, puis choisit Cléo, zoomant sur sa peau scintillante, découpant la danseuse en vignettes dorées, seins, cuisses, fuselage d'une taille prise au plus serré, Cléo, en pièces détachées, offerte à la France du samedi soir. chavirer, ce n'est pas qu'une histoire d'abus, donc. C'est aussi un roman sur la danse, sur le plaisir et la souffrance des corps, le corps mis à l'épreuve et l'abnégation que cela exige. L'auteur, on le sent bien, connaît ce milieu, car en effet elle-même, peut-être, comme Cléo, elle a fréquenté une MJC de banlieue où elle prenait des cours de danse. Oui, je crois qu'elle voulait en faire son métier, Lola Lafont. Et puis, elle a choisi d'écrire des romans, sans pour autant complètement abandonner le monde de la scène et de la musique, puisqu'elle chante également et qu'elle a sorti deux albums. Un premier en 2006, « Grandir à l'envers de rien », et puis aussi « Une vie de voleuse » en 2011. J'ai lu deux autres romans de Lola Lafont, un dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'il a eu beaucoup de succès, « La petite communiste qui ne souriait jamais » qui a été publié chez Actes Sud en 2013, un roman où Lola Lafont évoque le parcours de la très jeune gymnaste roumaine et championne olympique à Montréal, alors je crois que c'était en 1976, Nadia Comăneci, la petite roumaine avec les couettes et les rubans rouges. Et puis un autre roman aussi, publié toujours chez Actes Sud en 2017, Merci Marie Patti. Un récit autour de Patricia Hearst, cette riche héritière d'un magnat de la presse, une jeune fille qui a été enlevée et séquestrée dans les années 70 aux USA par un groupuscule d'extrême gauche. À l'époque, Patricia Hearst avait défrayé la chronique car elle avait embrassé la cause de ses ravisseurs et elle avait à son tour adopté la lutte armée. Comme Cléo, l'héroïne de Chavirer, Nadia et Patricia ont vécu l'emprise et la violence dans ces années, fin des années 70 et années 80. Elles aussi, elles ont été victimes, des victimes qui ont également collaboré, entre guillemets, à leur propre souffrance. Alors, vous l'aurez bien sûr compris, Chavirer est un roman féministe, sans complaisance victimaire, sans agressivité de ton ni voyeurisme. C'est une histoire qui part d'années où certaines mœurs étaient peut-être plus, je ne sais comment dire, plus cool, entre guillemets, du moins dans certains milieux intellectuels ou artistiques. Voilà, une histoire qui arrive jusqu'à nous en 2019, jusqu'à MeToo. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Oh, I've done so much wrong. But please give me strength to care.